Bonjour à tous et à toutes. Psaume 27 que nous allons voir ce matin. C'est une psaume de David. Et je vais le lire à haute voix et vous pouvez lire en silence dans vos Bibles. Et le psaume dit comme ça, de David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi des faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est complète du début, Genèse, jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse. Cela est ta parole, infaillible, parfaite, sans erreur, la révélation que tu nous fais pour te connaître. Merci Seigneur pour chaque serviteur que tu as utilisé pour garder ta parole intacte jusqu'à nos jours. Merci pour la lumière que tu es pour nos vies. Merci Seigneur parce que tu nous as donné en plus ton Saint-Esprit qui habite en nous, qui est avec nous et en nous pour nous guider. Et Seigneur, nous invoquons justement ton Saint-Esprit pour que tous les mots que je vais prononcer ce matin soient pour ta gloire et pour l'édification de chaque personne. Que la chair, que la pensée humaine ne prenne pas place sur ta parole. Garde-nous Seigneur dans le cadre d'être la bonne doctrine pour glorifier ton nom et pour que nous soyons édifiés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, nous allons voir, il y a tellement de choses. Vous savez que moi, c'est la deuxième fois que je peux prêcher ce psaume. L'année passée, j'ai prêché un court message sur le psaume 20, que c'est un psaume qui parlait de plus amplement des sacrifices. Des holocaustes. Et on voyait que les holocaustes, ce n'est pas exactement comme une offrande normale. Un holocauste, normalement, requiert le sacrifice de la vie. Alors, c'est ça la différence. Mais maintenant, nous voyons un psaume. Et pour nous mettre en contexte, c'est quoi le psaume? C'est quoi l'idée que vous avez des psaumes? Ce sont des livres les plus lus dans la Bible. J'écoute que les gens souvent disent que ce sont les livres ou les passages de la Bible qu'ils aiment mieux lire au quotidiennement, parce que les psaumes sont pleins de, comment je pourrais dire, consolation. On trouve des passages qui nous consolent dans un besoin particulier. Et justement, c'est ça que nous allons voir ce matin. Les psaumes ont été distribués de plusieurs façons. Si on pensait à un psaume, c'est quoi un psaume? Un psaume, c'est un poème auquel on a ajouté la musique. Et là, ce sont les psaumes que le peuple d'Israël, anciennement, dans le temps du roi Salomon, roi David, on chantait pour louer le Seigneur dans le temple, quand le peuple d'Israël se réunissait, quand le roi venait pour se présenter devant Dieu, souvent c'était les psaumes qu'on chantait pour louer Dieu. Alors, il y a cinq grosses divisions des psaumes, on ne va pas les voir parce que ça prendrait beaucoup plus de temps, et le temps passe vite. Mais c'est ça, c'est un regroupement des psaumes, et on les a divisés dans cinq livres différents par thème. Par exemple, il y a des psaumes qui prévoient le mot libération, liberté. Alors on fait le lien avec l'Exode. Il y a des psaumes qui ont un lien directement surtout sur l'homme, que l'homme est mentionné plus souvent. Alors on fait le lien avec le livre de Genèse et ainsi de suite. Mais c'est comme je dis, ça serait pour une autre occasion, pour une étude peut-être, on pourrait décortiquer mieux qu'est-ce que c'est les psaumes et comment est-ce que les psaumes sont réunis. Mais nous pouvons résumer que les psaumes sont un groupe de poèmes alors, auquel on a ajouté la musique pour louer Dieu dans le temple. Mais il y a aussi, dans les psaumes, il y a la révélation et il y a beaucoup de psaumes qui sont messianiques, qui parlaient ou qui annonçaient, qui prophétisaient sur la personne de Jésus-Christ lui-même d'une façon très particulière. Par exemple, le psaume 22 et 69 parlent directement des souffrances de Christ sur la croix. Si vous lisez ces deux psaumes-là, 22 et 69, vous allez voir qu'il y a, d'une façon poétique encore, mais qui parle des souffrances que notre Seigneur Jésus-Christ allait passer sur la croix du calvaire. Il y a le psaume 50 et 98 qui parlent d'une façon particulière sur la seconde venue de Jésus-Christ, d'une façon encore, comme je dis, un petit peu poétique, mais la seconde venue du Seigneur est là, dedans, de ces psaumes particulièrement. Il y en a d'autres, mais particulièrement dans les psaumes 50 et psaumes 98. Et encore, les psaumes 110, ils parlent d'une façon très directe sur le ministère que le Seigneur Jésus a présentement envers ou à faveur de l'Église, à faveur de chacun de nous. Le psaume 110 parle du sacerdoce de Jésus-Christ. Il dit clairement, le psaume 110, que Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, ou Melchisédek. Je ne sais pas si vous avez déjà lu sur Melchisédek, mais c'est un personnage très controversé, d'une certaine façon, parce que même les théologiens n'arrivent pas à déterminer exactement c'est qui Melchisédek. Mais si vous allez lire dans le livre de Genèse, les premiers 15 chapitres, se trouve le passage sur Melchisédek, quand Abraham, vous souvenez, est allé pour rescaper son neveu Lot, des rois qui avait été fait captif de certains rois. Abraham va avec ses serviteurs pour rescaper Lot. Et là, il a pris un butin des rois avec qui s'était battu. Et là, il a donné la dîme à Melchisédek. Et dans le livre des Hébreux, parle que le plus petit donne au plus grand, parlant de Melchisédek. Mais encore une fois, dans un certain temps de l'Église, on disait que Melchisédek, c'était une sorte d'incarnation de Jésus-Christ. Mais je ne crois pas ça non plus. Il faut pas aller trop loin dans nos spéculations. Il faut juste par la foi accepter certaines choses que moi je ne comprends pas, que le Seigneur n'a pas voulu nous révéler, mais en tout cas, c'est le ministère de Jésus-Christ. Et pourquoi un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Parce que de quelle tribu venaient les sacrificateurs? Vous vous souvenez? De Lévi. Alors, est-ce que Jésus vient de la tribu de Lévi? Non. Selon la chair, Jésus-Christ, vous savez tous, vient de la tribu de Juda. Alors, Melchisédek n'a pas établi une généalogie pour déterminer de quelle origine était vraiment Melchisédek. Alors, mais il était souverain sacrificateur du Dieu très haut. Alors, Jésus-Christ est fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est un souverain sacrificateur éternel. Et comme je disais, c'est le ministère que Jésus-Christ exerce présentement en faveur de l'Église, et en faveur de ses rescapés, de ses rachetés. Il est là pour intercéder devant le Père en notre faveur. C'est ça le ministère maintenant que Jésus-Christ exerce comme souverain sacrificateur. Alors c'est ça, si on résume, les psaumes des poèmes avec la musique et qui donnent certaines prophéties directement sur Christ et sur d'autres sujets dans l'histoire de l'homme et du plan du Seigneur pour l'humanité. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont écrit les psaumes. Moi, j'ai noté, j'ai consulté certains théologiens, certaines personnes qui ont écrit par rapport à ça, et il y a certains doutes. Il n'y a pas à 100% un accord par qui ont écrit les psaumes. C'est sûr que David, on attribue à David à peu près 77 ou 78 psaumes. Les fils de Corée, Corée lui-même, et Man et Ethan, ce sont deux personnages. Vous pouvez lire ça et trouver ça dans 1 Roi 4:31. Ces personnages, Eman et Ethan, sont mentionnés, sont des contemporains du roi Salomon. Possiblement, c'était des fonctionnaires du royaume de Salomon. Ethan, en tout cas, il y a pour la possibilité qu'il était comme portier du temple et qu'il était en charge de certaines offrandes qu'il récoltait quand les peuples d'Israël venaient offrir certaines sort d'offrande, c'est lui qui récoltait, mais c'est juste une spéculation. Ne le prenez pas comme la vérité absolue, parce que ce n'est pas vraiment à 100% sûr. On ne peut pas savoir ça. Mais juste une idée de qui étaient ces personnes-là, mais c'était considéré des gens d'une certaine, comment je pourrais dire, rélevance dans le peuple, comme des personnes sages, des personnes consacrées au service de Dieu. Et aussi à Salomon, bien sûr, qui a écrit deux psaumes, le psaume 72 et le psaume 127 sont attribués à Salomon. Moïse, qui a écrit un psaume aussi, Asaph, et il y a plusieurs psaumes anonymes, qu'on ne connaît pas qui les a écrits. J'aime pas le mot auteur, malgré que dans que vous allez lire par rapport aux psaumes, vous allez trouver les auteurs des psaumes, mais je pense que l'auteur des psaumes, c'est Dieu. Et les hommes ont juste écrit ce que Dieu leur a inspiré pour qu'ils écrivent. Ils passent le message pour nous. Alors, l'idée générale, l'idée principale du psaume 27, c'est la foi. La foi en Dieu. Si vous voyez, on a déjà lu, si vous lisez avec entendement, si vous lisez en réfléchissant ce que vous lisez, vous allez voir que la foi est mise comme principal sujet dans le psaume 27. Et il parle, il commence à dire, « Tu es la lumière, et ma lumière est mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Et là, il parle, « Si une armée s'est campée contre moi, mon corps n'aurait aucune crainte. » Qu'est-ce qui nous donne la confiance à nous, les chrétiens? Qu'est-ce qui nous donne la confiance que Dieu est avec nous? C'est la foi. Est-ce qu'on ne peut pas voir Dieu? Mais la parole me dit que Dieu a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Alors, moi, je crois ça. Et vous croyez ça, j'espère bien. Et Dieu a mis une foi naturelle dans tous les êtres humains. Mais la foi spirituelle vient directement de Dieu et est donnée à chaque être humain qui ouvre son cœur à Dieu, qui est réceptif à la révélation de Dieu. Alors, c'est pour ça que nous sommes peu ceux qui seront rachetés, parce que ce n'est pas tout le monde qui est ouvert au message de Dieu. Alors, par exemple, c'est quoi la foi naturelle? La foi naturelle, c'est celle que Dieu a donnée à tous les hommes. La foi naturelle, c'est celle qui permet à tout le monde d'aller aborder un avion et aller dans un pays des plus beaux au monde, que vous savez c'est quoi? C'est El Salvador, je sais, vous pensez. Mais en tout cas, est-ce que Ce n'est pas la foi, ce n'est pas la confiance de monter parce que j'aborde l'avion parce que je sais que le pilote, je comprends, c'est quelqu'un capacité pour voler. Alors ça, c'est la loi naturelle que nous avons tous les êtres humains et que Dieu a donné dans sa grâce à tout le monde. Est-ce que vous avez prouvé dans la chimie que le Tylenol, que vous allez, avant de prendre le Tylenol pour le maux de tête, vous allez étudier les composants du Tylenol? Non. Vous la prenez parce que le médecin vous dit, ou le pharmacien vous dit, prenez le Tylenol et vous allez être soulagé de la douleur, du maux de tête. Et vous le prenez, vous croyez. Mais imaginez-vous, si vous n'avez pas cette sorte de foi, c'est sûr que vous ne le prenez pas. Si j'ai mon doute de qu'est-ce que je veux boire ou pourquoi que ça sert, mais je ne le prendrai pas. Mais vous le prenez parce que vous avez confiance. C'est une sorte de foi naturelle que tous les êtres humains ont ou avons. Mais, comme j'ai dit, le thème principal du psaume, c'est la foi. Si vous réfléchissez, vous allez voir ça dans le psaume 27. Mais j'ai divisé le message dans 5 points principaux. Si vous les gardez en tête, vous avez déjà pris quelque chose. Parce qu'après que vous allez lire le psaume, vous allez vous rappeler, oh, on a vu dans telle date qu'il y a quelque chose qui sont encadrés dans ce psaume. Et les 5 points principaux que j'ai divisé le psaume, c'est l'assurance dans la foi. L'assurance dans la foi. Deuxième point que j'ai marqué pour le message, c'est une prière de supplication. Et nous allons voir différentes sortes de prières. Et troisièmement, que David demande la délivrance de ses ennemis. Est-ce qu'avez-vous des ennemis? Moi, j'ai des ennemis, malheureusement. Et un ennemi, que je crois que nous l'avons tous en commun, s'appelle Satan. Et un autre ennemi, c'est la chair. Mais en tout cas, demande de délivrance des ennemis. David ici va parler des ennemis physiques, en chair et os. Et quatrièmement, la conviction de la foi du croyant. La conviction de la foi chez les croyants. Et cinquième point, une relation profonde avec Dieu. En tout cas, c'est ça que je vois. Peut-être que Dieu vous donne d'autres points différente à vous si vous lisez les psaumes. Et moi, en étudiant les psaumes, c'est ça que j'ai découvert pour moi-même, pour partager avec vous ce matin. Alors, l'assurance dans la foi, une prière de supplication, la conviction, demande de délivrance, la conviction de la foi du croyant et une relation profonde avec Dieu. Et ce sont des choses que David, en elle, qui veut avoir, qui demande à Dieu d'avoir. Et je ne sais pas si vous, en tant que croyant, vous demandez des choses pareilles au Seigneur. Moi, oui, je demande à chaque jour qu'il me donne la foi, qu'il me délivre du mal. Je pense que tout croyant qui a la foi en Dieu, qui croit en Dieu, qui a confiance en Dieu et les choses que Dieu fait, il va toujours demander des délivrances des ennemis et des choses mauvaises. Alors, l'assurance de la foi, c'est quoi la foi? Si on parle de foi, il faut définir c'est quoi la foi. Et dans Louis II, la version de la Bible, Louis II dit, « Or, la foi est une forme d'assurance, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça, c'est la version Louis II, Hébreu 11, 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. » Et il y a une autre version, j'aime plus de la façon dont c'est exprimé, dans la Bible du Semeur, qui dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » Je répète, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Mais j'aime mieux cette version-là. Les deux sont corrects. Je ne peux pas dire que la version Louis II, ce n'est pas correct. C'est bien. Et en plus, c'est ça la version que j'ai chez moi. Mais quand il dit, le Seigneur, la foi est une façon de posséder. C'est quoi que nous avons en possession? Est-ce que ce sont les choses que je n'ai pas avec moi? Non, les choses que je possède sont celles qui sont propres à moi, que je peux avoir confiance qu'ils m'appartiennent. Alors, c'est pour ça que j'aime cette version-là. La façon de posséder ce qu'on espère. Mais vous savez, dans la théologie, les théologiens parlent du oui, mais le pas encore. Le oui, mais pas encore. On est assis déjà, c'est ce que la Bible nous dit, vous et moi qui allons régner avec Dieu, avec Jésus-Christ, c'est ça la promesse de Christ. Nous allons régner avec lui, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas convaincu, non? Vous me regardez comme, de quoi il parle, lui? Mais c'est ça que la Bible dit, qu'on est assis dans les lieux célestes avec Christ. Est-ce que vous êtes sauvé ou vous allez être sauvé? Vous êtes sauvé, je suis sauvé. Alors, est-ce que je suis déjà assis littéralement avec Christ? Qui a dit Amen? Il va s'en aller aujourd'hui peut-être? Non, mais littéralement, je ne suis pas encore. Alors, c'est là que s'applique le oui, mais le pas encore. Oui, parce que la Bible me le déclare. Mais pas encore, parce que littéralement, je ne suis pas encore avec Christ dans le ciel. Ça va se faire dans le futur. Mais c'est une promesse biblique que je crois par la foi. Alors, si je suis déjà sauvé, je dois croire littéralement que, selon la promesse de Dieu, je suis assis, spirituellement parlant, par la foi, avec Christ dans les lieux célestes. C'est la promesse de Dieu. Si, imaginez-vous si on doutait des choses que Dieu nous a promis dans sa parole. Est-ce que ça, il vous arrive de douter parfois de votre salut? Il vous est déjà arrivé qui vous doutez, est-ce que c'est vraiment, je suis sauvé? Parfois, c'est bon d'avoir des doutes comme ça, parce que ça nous permet de réfléchir et de chercher la parole de Dieu et en prière l'assurance de mon salut et être certain que je suis sauvé. Parce qu'il y a parfois des personnes qui m'ont déjà parlé, ils me disent, est-ce que c'est vraiment bon qu'un chrétien s'en doute de son salut? Ben, je crois que l'idéal, c'est de ne pas douter. C'est ce que la Bible veut. Mais si vous en doutez, vous pouvez tout simplement, par la foi, dans la prière, avoir l'assurance du salut et sentir pleinement et vous sentir pleinement sauvé. Alors, l'assurance dans la foi, on a déjà établi. Il y a différentes sortes de prières. Il y a, par exemple, la prière de demande ou de requête que nous faisons quotidiennement. On prie le Seigneur pour qu'il me donne la force pour bien faire mon travail aujourd'hui. Et je prie pour que le Seigneur m'amène au travail sans aucun problème, que je puisse retourner à la maison. Ce sont des demandes quotidiennes qu'on fait. Mais il y a la requête jaculatoire. Je ne sais pas si vous savez, ce sont des mots de dimanche, hein, qu'on utilise le dimanche. Mais la prière jaculatoire, vous savez c'est quoi? Je suis sûr que vous l'avez exprimé déjà plusieurs fois. C'est celle qu'on fait ponctuelle, brièvement. Par exemple, il y a un élève qui rentre parce qu'il y a l'examen final de géographie, par exemple. Et c'est très important, il rentre pour faire le test. Et là, en rentrant, il reçoit son test pour qu'il le remplisse, puis il dit, Seigneur, aide-moi que le test puisse, je puisse répondre comme il faut. C'est une prière jaculatoire, et vite, ponctuelle, pour un besoin qui du moment précis. Et là, je le fais. Et quand je sors, je fais un autre. L'étudiant, en tout cas, sort, il dit, Seigneur, aide-moi que la réponse que la capitale du Canada, c'est Paris, soit vraie. C'est une prière jaculatoire, sauf que je ne pense pas que le Seigneur va exaucer cette prière-là. Mais c'est une sorte de prière. Il y a la prière imprécatoire, que cette sorte de prière, on ne peut pas le faire, nous les croyants de l'époque. Cette prière, la prière imprécatoire, se faisait dans l'Ancien Testament, parce que la prière imprécatoire, c'est la prière qui, anciennement, il disait, Seigneur, que coupe la tête de tous ces gens-là. On priait littéralement pour que Dieu détruise l'ennemi. Ça, c'est une prière imprécatoire. Pourquoi c'est une prière que nous, en tant que chrétiens, ne pouvons plus la faire? Parce que Jésus-Christ a dit, vous devez aimer vos ennemis, prier pour ceux qui vous persécutent. Alors, il n'y en a plus place pour cette sorte de prière. Je ne sais pas si vous l'avez déjà pratiqué. Si vous l'avez déjà fait, oubliez. À partir d'aujourd'hui, ne faites plus, ne demandez plus que le Seigneur coupe la tête de ceux qui vous aiment pas bien. Alors, la prière imprécatoire, on ne peut plus la pratiquer. Il y a la supplication. La prière de supplication, c'est une sorte de prière toute spéciale. Et nous allons voir des exemples. Et nous allons voir plus tard, mais par exemple, celle que nous allons voir, il y en a plusieurs, mais je ne sais pas, peut-être que vous savez déjà par faire une prière de supplication, comme Anne, par exemple. Vous vous souvenez, Anne? Samuel, elle avait une supplication. Elle était dans l'angoisse. Elle était dans l'amertume, selon les mots qui emploient la parole de Dieu. Alors, ce sont des prières de supplication, d'un besoin particulier, d'un besoin vraiment fort qui peut envelopper tout l'être humain de façon spirituelle, morale, plus spécifiquement. Et la prière d'adoration, ce que nous faisons, je ne sais pas si vous la pratiquez aussi, je ne sais pas, mais celle que je ne viens pas pour demander rien à Dieu. Je viens juste pour lui adorer. Je viens juste pour lui dire merci Seigneur, tu m'as sauvé, je ne suis rien. Merci pour tout ce que tu me donnes. Merci pour ta grandeur. Merci pour ce que tu es. Pour ce que tu as fait dans l'histoire de l'humanité et particulièrement dans ma vie, c'est la prière d'adoration. Peut-être qu'il y a d'autres sortes de prières, je ne peux pas, il faudrait sonder, investiguer un peu plus profondément, mais en tout cas, ce sont les différentes sortes de prières que je voulais partager avec vous ce matin. Et pour développer le premier point, oh mon Dieu, on a déjà avancé beaucoup dans le temps, l'assurance de la foi. En quoi repose ma foi? C'est très important, première chose, en quoi repose ma foi? Vous savez que la foi, on peut la mettre sur n'importe quoi. Je me souviens que mon père, quand j'avais même pas 2 ans, 1 an de m'avoir converti à l'Évangile, mon père se disait athée. Grâce à Dieu, avant de mourir, j'ai partagé l'Évangile et accepté le Seigneur. Alors je suis sûr qu'il est au ciel et que je le reverrai un jour. Mais à cette époque-là, ça s'est passé à peu près en 1983. Je n'en déduisais pas mon âge, ok? C'est juste la date, là. À peu près en 1983, mon père est venu à la maison et puis je partageais l'Évangile. J'étais dans le premier amour. À toute personne qui me parlait, je lui parlais l'Évangile. Je me suis mis dans des problèmes aussi à cause de ça. Parce que je venais au témoin Jéhovah. Moi, j'allais vers le témoin Jéhovah. Alors, c'est pour ça que ça m'a attiré. J'ai étudié parce qu'à un moment donné, je ne pouvais pas. J'avais pas assez d'arguments. J'étais un nouveau croyant pour contredire ce que le témoin je disais. Et ça m'a donné l'intérêt d'étudier un peu le témoin Jéhovah. Mais en tout cas, mon père, il m'a dit, à quoi que ta foi? Je dis, ben, en Jésus, en Dieu. Il m'a dit, non. La foi, c'est une philosophie générale de toutes les religions. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, regarde, les bouddhistes, ils mettent leur foi en quoi? En Bouddha. Les musulmans, ils mettent la foi en quoi? En Allah. Pas en Allah, en Allah. Mais, il m'a dit, mets la foi sur ce poteau-là. Et si tu mets la foi comme il faut, le poteau va te faire des choses. C'est le concept. Pour nous, ça, c'est comme folle. C'est une folie de croire ça. Mais il y a des gens. Si mon père le croyait, je suis sûr qu'il y en a dans les milliers de personnes, des millions de personnes au monde, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui le croient. Mais pourquoi il y a tant de religions? Parce que chaque religion a sa façon. Mais la foi véritable, c'est celle que nous avons dans le Dieu éternel, dans le Dieu créateur, le Père de Jésus-Christ. Alors, en quoi je mets ma foi, c'est important. Est-ce que j'ai confiance dans mon travail plutôt que dans le Dieu qui me pourvoit le travail? Est-ce que j'ai la foi dans le salaire que vous savez la foi dans le salaire qu'on vous donne, c'est un bon salaire, non? Plutôt que dans le Dieu qui vous a pourvu ce travail pour un bon salaire? Voyez-vous, parfois même nous les croyants avons tendance à nous éloigner de la vraie personne dans laquelle nous devons poser notre foi. Et nous sommes toujours en danger de nous dévier un peu des choses que la parole nous enseigne en tant que chrétiens et que nous devons pratiquer. Le verset 7 dit, ma foi doit être placée en Dieu. Dit, Éternel, écoute ma voix. J'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. David est certain à qui il prie. David sait que c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, à qui il doit prier. Sa foi est ferme dans le Dieu d'Israël. Nous devons aussi être ferme dans la foi. N'ayez pas confiance dans votre travail. N'ayez pas confiance dans vos capacités. Ayez confiance dans celui qui vous donne les capacités. Ayez confiance dans celui qui vous a pourvu le travail dont que vous avez et qui vous pourvoit beaucoup pour votre besoin. Et ma foi doit être aussi ferme. Ma foi doit être ferme. Qu'est-ce que dit le psaume, le verset 7? Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Dans Jacques 1,6, qu'est-ce que Jacques dit? Mais qu'il la demande avec foi. On ne va pas lire tout le passage parce que ça prend trop de temps. Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. C'est ça que dit Jacques dans le verset 6. Jacques chapitre 1, verset 6. Alors, on doit avoir une foi ferme. Parce que si j'ai mon doute, dit Jacques, je peux dire que j'ai la foi. J'ai déjà entendu des chrétiens dire, oh non, j'ai une foi terrible. Mais dans le moment de l'épreuve, c'est là qu'il s'éprouve la foi. J'aimais beaucoup une affiche il y a longtemps, quand on est arrivé à l'église, il y avait dans les sous-sols, quand vous descendez les escaliers, il y a une porte qui se donne à une cave, un entrepôt. Il y avait une grosse affiche d'un chat qui était avec ses griffes. Il était en train de tomber, mais il s'est attaché à un panier qui pend d'un crochet. Et là, il y avait un écriteau qui disait, la foi, c'est celle qui, dans les moments de besoin, c'est la seule qui te soutient. Et moi, j'aimais ça. M'a marqué. J'ai toujours, quand je pense à la foi, ça me vient l'image de ce chat qui tient avec ses griffes du panier pour ne pas tomber. Alors, la foi, c'est celle qui te soutient. Si tu es en train de tomber, si tu es dans un danger de tomber, utilise la foi. La foi dans la bonne personne. La foi qui te soutient, parce que ce n'est pas toi vraiment qui te soutient, c'est lui à qui tu pries, dans quoi tu as mis ton espoir. Alors, ma foi doit être ferme. Je ne dois pas douter, sinon je ne reçois rien. Ma foi doit être constante. Une personne, nous les rachetés, nous les enfants de Dieu, nous devons avoir une foi constante. Luc 18, vous vous souvenez du passage de Luc 18? Le juge méchant, que la veuve venait lui demander qu'il lui fasse justice de son adversaire, et le juge ne voulait pas, parce qu'il était méchant. Peut-être que la cause de la veuve était. C'est une parabole que le Seigneur Jésus-Christ lui-même raconte. La veuve avait raison, mais le juge ne voulait pas lui faire justice. Mais Jésus dit, mais à cause qu'elle venait chaque jour, il dit, bon, je vais lui faire justice. Et Jésus ajoute, il dit, combien plus votre Père céleste ne vous écoutera et exaucera vos prières que vous faites jour et nuit. Alors, constance dans la foi. Il va falloir que je coupe mon message parce que le temps passe très vite. Quand est-ce que je dois appliquer la foi? Quand j'ai peur, par exemple. Est-ce que ça vous arrive d'avoir peur? Par nature, nous avons peur du noir, hein? Même adulte, je connais des adultes qui ne peuvent pas rester seuls dans une maison la nuit, parce qu'ils ont peur du noir. Ben, c'est naturel, mais quand est-ce que je dois appliquer la foi? Quand j'ai peur, par exemple. C'est ça que dit Matthieu 8, 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? C'est quand le Seigneur Jésus dormait sur le bateau avec les disciples, puis il traversait, il y avait une grosse tempête. Parce que vraiment, là, ils ont cru que lui, il est le Messie. Ils ont cru que lui, il est le Fils de Dieu. Ils l'ont vu déjà faire des miracles. Et ils sont là, et le vent, ben c'est sûr qu'il y a une tempête. Je n'ai jamais été dans une tempête à la mer. Ça doit être effrayant. Mais ils sont là, mais ils sont avec lui. Et c'est pour ça que Jésus-Christ leur reproche, homme de peu de foi. Ça veut dire qu'il fallait la foi, appliquer la foi de qu'il était avec Jésus, qu'il n'allait pas mourir. Alors le Seigneur lui reproche cette chose. Et quand est-ce que je dois appliquer la foi face aux dangers et besoins de la vie? Hein? Élisée, ce passage, c'est quand le roi de Syrie vient à chercher à Élisée pour le tuer, parce qu'on dit que le peuple d'Israël savait davantage le plan qu'il avait pour attaquer Israël. Alors le roi de Syrie, il amène ses soldats, il dit, il y a un de vous qui révèle au roi d'Israël ce que je planifie contre eux. Ils ont dit, non, non, mon roi, il n'y a personne qui dévoile tes plans, mais c'est qu'il y a un prophète de Dieu en Israël, et Dieu lui révèle, même dans ton cachet, quand tu es caché, dans ta chambre à coucher, il révèle au roi d'Israël tout ce que tu planifies contre Israël. Alors, c'est qui? Élisée. Alors, je vais aller tuer Élisée. Et il vient avec ses soldats, il envoie des soldats, des chars, pour tuer Élisée. Et là, le serviteur d'Élisée sort pour voir qu'est-ce qui s'est passé, et il voit tous les chars du roi de Syrie qui entourent la ville pour tuer Élisée. C'est sûr que, comme lui, il était son serviteur, il allait passer aussi. Alors, lui, il est affligé, et lui, il vient parler à Élisée, et Élisée dit, il prie à Dieu, il dit, ouvre les cieux de son serviteur pour qu'il voie. Et là, Dieu fait le miracle et ouvre les cieux du serviteur d'Élisée. Et qu'est-ce qu'il voit? Des chars de feu beaucoup plus nombreux qui entouraient Élisée pour le protéger. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. La foi de qui? Élisée. Mais parfois, il faut aussi que nous puissions être clairs. La foi, c'est le moyen, OK? Parce que parfois, on a tendance à penser, bon, c'est la foi qui me fait tant de choses. Qu'est-ce qui fait les choses? C'est Dieu. La foi, c'est juste le moyen, le véhicule que Dieu utilise pour vous exaucer ou m'exaucer un besoin. OK? Il faut avoir la foi. Mais la foi doit être aussi selon la volonté de Dieu. Parce que Jacques aussi dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez pour. Pourquoi? Oui, Dodo, tu l'avais dit? Ah non? C'est ça, pour satisfaire vos désirs, parfois charnels. Alors, il y a une sorte de prière que le Seigneur ne va pas exaucer. On va sauter la prière de supplication parce qu'en fait, c'est quand Anne vient, il était, vous savez, il était stérile. Puis la deuxième épouse, Penina, qui s'appelait, de son mari, Elkana, il s'est moqué d'elle. Parce qu'elle était stérile et l'autre avait déjà des enfants. Et là, elle vient, puis elle prie de telle façon qu'Élie, le sacerdote, pensait qu'elle était ivre et qu'elle. À cause de l'alcool, le vin, il faisait ces choses-là. Mais c'est parce qu'elle dit, j'ai montré mon esprit à cause de l'affliction. Elle était, selon le passage, si vous le lisez chez vous, elle était dans l'amertume à cause de l'épreuve qu'elle passait, à cause de la stérilité. Et pour ça, oui, je sais, vous pouvez dire, mais il y a tellement de femmes stériles dans la société, mais il faut voir le contexte culturel. En Israël, une femme stérile dans cette époque-là était mal vue parce que la stérilité dans une femme était vue comme un châtiment de Dieu. C'est-à-dire, était une pécheresse. C'était une pécheresse comme la pire des pécheresses, parce que c'est pour ça que Dieu ne te fait pas enfanter. Alors, c'était grave. C'était toute la société qui voyait mal ce problème-là pour une femme. Et c'est pour ça que l'autre s'est moqué d'Anne. Et là, Anne vient demander à Dieu. Et là, c'est une prière de supplication. Elle pleure. Elle était dans l'angoisse. Elle était dans l'amertume. Et ce n'est pas toutes les requêtes qu'on présente devant Dieu qui nous met dans cette situation-là. C'est pour ça que je vous voyez vous la différence des prières que je vous ai classées après. Mais, pour finir, David cherche une relation plus profonde avec Dieu. Ne pensez pas que vous avez la foi qui plaît à Dieu si vous n'avez pas une relation intime avec Dieu. Si vous, je ne sais pas si c'est votre cas, j'espère que non, vous êtes là, vous êtes dans la meilleure place le dimanche, mais combien de croyants j'écoute, oh, encore dimanche, il faut aller à l'église. Relation profonde avec Dieu. C'est encore le quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut aller à l'église de quartier. Oh non, après les jours de travail. Veux-tu aller à la femme? Va-toi, vas-y à la femme. Et les hommes, on reste à la maison tranquille parce que relation profonde avec Dieu. Une relation profonde avec Dieu, c'est celle qui vous donne l'envie d'être dans les choses du Seigneur. Une relation profonde avec Dieu, c'est celle qui vous donne l'envie de servir le Seigneur. Une relation profonde avec le Seigneur, c'est celle qui vous amène à pratiquer la sainteté, d'être saint à chaque jour. Une relation profonde avec Dieu, c'est celle qui vous amène à lire la parole du Seigneur et la méditer, pas juste la lire, la méditer. Une relation profonde avec le Seigneur, c'est celle qui vous amène à aimer votre prochain, aimer les frères. Une relation profonde avec Dieu, c'est celle qui vous amène à être, à surveiller vos frères pour les aider, pas pour juger vos frères, mais parce que combien de fois, moi je parle pour moi, j'ai passé à côté d'un frère, une soeur, qui était dans un besoin vraiment difficile, et j'ai tout simplement, comme je suis bien, pas de problème. Mais la relation profonde avec Dieu, c'est celle que David demande à Dieu. C'est la clé du succès d'un croyant. Il veut toujours rester sous la protection de Dieu. Il dit, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Et avant, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ça, c'est un désir. Et vous savez, David, l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu connaissait David. Dieu connaissait le cœur de David. Dieu connaît votre cœur, Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît quelle sorte de relation que vous êtes en train de vivre présentement. Parce que le monde peut me voir. Et encore une fois, encore une chose, venir à l'église, ce n'est pas non plus nécessairement un signe de relation profonde avec Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient à l'église par habitude. Il y a beaucoup de monde qui vont à l'église le dimanche par religiosité. Mais sort de l'église et c'est fini. Tout de retour à la normale. Je vis ma vie comme je veux. Ce n'est pas une relation profonde avec Dieu. Avoir une relation, chercher une relation profonde avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire que tout... Moi, je ne peux pas dire en tout cas que moi j'ai une relation profonde avec Dieu. Je connais mes manquements. Dieu connaît mes manquements. Dieu connaît votre manquement. Mais est-ce que vous faites quelque chose pour l'arranger? Est-ce que vous faites quelque chose pour délaisser ce problème-là? Ces choses qui vous empêchent d'avoir une relation profonde avec Dieu? Et c'est ça le point. Alors, je crois que la perfection de l'homme devant Dieu, qui vient de Dieu, qui Dieu nous la donne, c'est l'intégrité. Être sincère et chercher Dieu vraiment avec mon cœur. Chercher Dieu avec tous les désirs que David exprime ici dans le psaume 27. Il cherche à être dans la maison de Dieu tous les jours de sa vie. Alors, une relation profonde avec Dieu. Il dit, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Alors, offrir des sacrifices, c'est quoi, selon Romains, à nous les croyants, d'offrir des sacrifices? Sacrifice de lèvres, sacrifice qui loue le nom de Dieu. Et que nous-mêmes, nous nous présentions comme des sacrifices vivants, c'est ça que dit Romains 12. Sacrifice vivant pour louer, pour servir, pour témoigner, pour glorifier Dieu dans nos vies. Je conclue. Il faut que nous développions une foi forte pour aimer Dieu et avoir une relation intime avec lui, toujours. Pas juste le dimanche, pas juste les jours de l'église de quartier, tous les jours. Dieu entendra nos prières et louanges et exaucera toutes celles qui lui donne la gloire, qui sont d'accord à sa volonté et qui édifient nos vies. Que le Seigneur puisse nous bénir et nous aider à avoir une relation de foi, une relation profonde avec lui.